connaissances et témoignages. Présenté par Anne Bernet, l'abbé Guérin.
Monsieur le Cardinal, nous avons la chance aujourd'hui de vous recevoir. Monseigneur Ricard, vous êtes l'archevêque de Bordeaux depuis 2002. Lors de votre accession à l'épiscopat, vous avez choisi une très belle devise, à cause de l'Évangile. Pourquoi un tel choix, qui est un programme autant qu'une explication, et qu'implique-t-il pour vous au quotidien?
Alors cette parole, donc, vient du Christ dans l'Évangile, qui dit à ses disciples, « Vous qui avez tout quitté, pour moi et pour l'Évangile. » Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer et qu'il confie ensuite donc à ses apôtres. Et quelle est cette bonne nouvelle? Fondamentalement, enfin pour moi, si je dois dire un peu ce qui est le cœur de l'Évangile, c'est tu es aimé. Qui que tu sois, quel que soit le jugement que les autres peuvent porter sur toi-même ou que tu peux porter aussi sur toi, eh bien dis-toi que tu es aimé. Tu es le fils, tu es la fille bien-aimée du Père, laisse-toi aimer. Et si tu te laisses aimer, tu verras que cet amour, c'est une puissance de transformation. Il éclairera ta vie, il te donnera un sens. Dis-toi que tu es aimé et sur cet amour, tu peux bâtir, comme sur un roc, la maison de ta vie. Voilà, je trouvais que, en quelques mots, était résumé ce qu'est le contenu de l'Évangile.
C'est une très belle définition, monsieur le cardinal, et qui rejoint, je pense, ce défi de l'évangélisation auquel vous avez souvent fait allusion. Comment le relevez-vous, ce défi qui est, si je vous comprends bien, d'abord une invitation à aimer?
Oui, je crois que ce qui me paraît être au cœur du message de Jésus, c'est d'abord, tu es aimé, laisse-toi aimer. Cet amour, tu verras, c'est une force de transformation personnelle. Et si tu es aimé, tu es invité à ton tour à aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et c'est vrai que je crois que la mission, l'évangélisation aujourd'hui, quand le pape François parle de disciples missionnaires, eh bien, je crois que ce qui est au cœur de la mission, c'est de témoigner de cet amour. C'est d'inviter à découvrir cet amour et à se laisser aimer et inviter à entrer dans cette dynamique de l'amour.
N'est-ce pas d'une certaine manière ce que vous avez dit à Paumain dans votre homélie du 17 janvier, que notre monde a un tragique besoin d'amour, ce que nous constatons tous les jours?
Tout à fait, hein. Oui.
Mais ce tragique besoin d'amour, monsieur le cardinal, n'est-ce pas d'abord un besoin de Dieu et du Christ que le monde ne connaît plus?
Oui, je crois que, si vous voulez, la découverte qu'il y a quelqu'un qui nous aime me paraît fondamentale. Je suis frappé de voir avec, si vous voulez, d'un côté avec des jeunes, surtout des adolescents, qui se demandent quand ils arrivent à un certain âge, est-ce qu'ils sont aimés, est-ce qu'ils comptent pour les autres. Et on sent bien que, si vous voulez, c'est l'expérience d'être aimé ou la conviction d'être aimé qui va établir en eux la confiance, va les aider justement à trouver une espèce de dynamique de vie et donner un sens à leur vie. Et je crois que c'est très important, si vous voulez, qu'ils puissent découvrir, même s'il y a pu avoir dans leur expérience des aspects plus pénibles, plus difficiles, où ils ont eu l'impression des fois de ne pas avoir leur content d'amour, qu'il y a quelqu'un qui les aime, sur qui ils peuvent compter, c'est le Seigneur. Et pour moi, l'autre point de référence sont les catéchumènes, c'est-à-dire ces adultes. Il y en a de plus en plus, moi, dans mon diocèse, chaque année, nous avons à peu près sur Bordeaux une 100 à 110 catéchumènes adultes, donc qui demandent le baptême. Et je suis frappé de voir combien, au contact du Christ, au contact de l'Évangile, leur vie change. D'ailleurs, ils emploient une expression, ils disent « nos yeux s'ouvrent ». Voilà.
Et comment, monsieur le cardinal, devrions-nous tous, nous baptisés, témoigner de cet amour du Christ?
Moi, je crois que c'est vraiment dans les choses, les plus simples de la vie quotidienne. Ça implique évidemment un décentrement. C'est saint Paul qui, dans l'Épître aux Galates, nous dit, voilà, vous pouvez vivre, il y a deux logiques de vie. Soit vous vivez selon la chair, soit vous vivez selon l'esprit. vivre selon la chair, pour saint Paul, c'est pas vivre selon le sexe. Vivre selon la chair, c'est l'homme pécheur qui finalement se centre sur lui, se referme sur lui, hein, ramène tout à lui. Alors que pour saint Paul, vivre dans l'esprit, c'est vivre un décentrement par rapport à soi, pour se mettre à la place de l'autre, se mettre à l'écoute de l'autre, voir finalement de quoi l'autre a-t-il besoin. Et l'Évangile nous dit, si tu vis ce décentrement, si tu vis cette mort à toi-même, pour être au service de l'autre, tu trouveras la vie. Voilà. Et ça, je crois que ça se vit, ça s'apprend, avec des hauts et des bas, mais je crois que l'enjeu de la vie chrétienne, c'est d'inscrire ça dans notre quotidien, cet apprentissage, finalement, du décentrement de l'amour.
Mais est-ce que ce décentrement n'est pas justement ce qui est le plus difficile dans le contexte actuel et dans un monde où même parmi les chrétiens, on a tendance à se replier sur soi-même, sur son égoïsme, sur ses avantages personnels?
Oui, tout à fait. Nous sommes dans une société qui, de fait, est marquée par l'individualisme. Et donc, le fait que chaque individu voit un peu midi à sa porte et voit les choses surtout à partir de ses propres intérêts, de ses propres souhaits, de ses propres désirs, de ses propres besoins. Voilà. Alors, nous sentons bien, si vous voulez, qu'une société, humaine, j'allais dire, ne peut pas être simplement une juxtaposition d'individus dont chacun défendrait ses propres intérêts. Ça mène à la violence, ça mène à la désagrégation sociale. Et donc, je crois que, j'allais dire, ce travail d'apprentissage à la fraternité, bien sûr, il est au cœur de la vie chrétienne, mais je crois que c'est aussi quelque chose, j'allais dire, qui est le secret d'une vie véritablement humaine et d'une vie sociale aussi humaine. Hein. Alors, c'est vrai qu'en même temps, je crois qu'il ne faut pas se le cacher, ça passe par un combat spirituel. Saint Paul, là aussi, il revient et dit « Attention, vous avez aussi à lutter parce qu'il y a des forces en vous, ou autour de vous aussi, je veux dire, qui ne vont pas dans ce sens, qui sont plutôt dans le sens du repli sur soi. »
« Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais
voilà.
faire. »
Heureusement que nous ne sommes pas livrés qu'à nos seules forces et qu'avec le Christ et avec son esprit, le Seigneur nous donne finalement les armes pour ce combat spirituel.
Monsieur le cardinal, vous avez, le 17 janvier dernier, présidé les cérémonies d'anniversaire de l'apparition à Pomas, qui pour nous autres Mayennais est une grande joie. Vous avez avoué que cette visite représentait pour vous une découverte. En quoi l'événement du 17 janvier 1871 vous semble-t-il important, remarquable et surtout porteur d'un message pour notre temps?
De fait, j'avais entendu parler des apparitions de Pontmain, mais finalement, sans en connaître le détail, l'expression et la portée. Voilà. Et c'est vrai que l'invitation qui m'a été faite cette année de présider donc la fête de Notre-Dame de Pontmain a été pour moi l'occasion de découvrir un lieu, une basilique que j'ai beaucoup aimée, mais aussi de découvrir le message de Pontmain. Et ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que fondamentalement, ce message, c'est un message de confiance. Puisque ce qui est au cœur, finalement, du message de Pontmain, hein, c'est « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Voilà. Bon, c'est un message, bref, c'est un message très simple, et en même temps, qui va à l'essentiel. Il m'a frappé parce que, finalement, ces enfants qui écoutent ces paroles de la Vierge l'écoutent dans un contexte qui était un contexte d'inquiétude, qui était un contexte d'angoisse. Les Prussiens n'étaient pas loin, on se demandait s'ils n'allaient pas envahir le village. L'épidémie de typhoïde aussi menacée. Donc c'est dans un contexte d'inquiétude et d'angoisse. Et là, la Vierge les invite à la confiance, et à la confiance en Dieu, d'où l'invitation de la prière. Et ce qu'elle leur dit, et je crois que cette phrase m'a beaucoup touché, c'est « Mon fils se laisse toucher », justement. Or, en entendant cette parole de Marie, j'entendais cette parole de l'Évangile, en particulier chez saint Matthieu, où on nous dit que Jésus, à la vue des foules qui étaient là, se sentit touché.
Il eut
Ou plus
pitié de cette
exactement,
foule.
Fut bouleversé au plus profond de lui-même. Hein. Le verbe qui est dans le grec, qui est à l'origine de notre texte évangélique, il désigne les entrailles. Jésus est touché aux entrailles à la vue des foules qui étaient là comme des brebis sans berger. Voilà. Ça nous dit la passion du Christ pour les hommes. Cette passion du Père dont il donne un visage dans son amour pour les hommes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
Voilà. Ce qui renvoie, monsieur le cardinal, à cette très belle phrase de la Bible, quand bien même une mère oublierait son petit enfant, moi je ne t'oublierai pas.
Tout à fait, tout à fait. Là, nous sommes, me semble-t-il, au cœur de la révélation.
Mais c'est ce que je vous avais dit, je crois, un jour, en parlant de Notre-Dame, vous avez dit ce qui résume, je trouve, admirablement le rôle, la destinée de la Sainte Vierge. Marie était
oui.
confiance.
Oui.
C'est admirable. Pourriez-vous développer oui. cette image, monsieur le cardinal?
Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est le oui de Marie. Ce oui de Marie, bien sûr, il retentit dans la scène de l'Annonciation. Hein. Marie est surprise, et en même temps, l'ange lui confie une mission, cette mission d'être la mère, finalement, de ce sauveur que Dieu va envoyer. Et Marie, sans trop savoir finalement ce qui l'attend, dit oui à Dieu. Et ce oui à Dieu est vraiment le signe de la confiance. Si j'avais une image, je dirais que Dieu tend la main à Marie, et Marie finalement, toute sa vie, va garder cette main de Dieu. Voilà. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, ce qui fait la grandeur aussi de l'Immaculée Conception de Marie. C'est-à-dire qu'en elle, il n'y a pas de fêlure. Si vous voulez, nous, bien sûr, il y a la grâce de Dieu, mais il y a toujours eu dans notre vie des moments où finalement, ce qu'on appelle le péché, nous avons pris des distances par rapport, nous avons lâché la main de Dieu. Voilà. Or, ce qui me frappe, c'est que Marie ne lâche pas la main de Dieu. Et ce oui de Marie, elle va le redire dans les autres grands moments de sa vie. Des moments heureux, mais c'est le oui aussi interrogatif de Marie quand à 12 ans, Jésus les a laissés pour rester dans le temple. Et Marie va dire à son fils, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Hein, ils ne comprirent pas la parole que Jésus leur avait dite. Bon. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, le oui de Marie qui va être ce oui d'inquiétude quand elle voit finalement son fils commencer sa mission et voir aussi les oppositions, et ça va être vite les haines, qui vont donc se manifester contre lui. Et puis, c'est le oui de Marie qui est un oui à la fois douloureux, mais en même temps, elle participe au sacrifice de son fils, c'est le oui de Marie à la croix. Je dirais qu'il y a ce oui de Marie. C'est la dernière image d'elle que nous avons dans le Nouveau Testament, qui est le oui de Marie avec les apôtres le jour de la Pentecôte, dans l'accueil de l'Esprit. Voilà. Donc, ce qui me frappe, c'est que dans le pèlerinage de la vie de Marie, le fil conducteur est la foi et la confiance. Et je crois que Marie est une grande éducatrice de la confiance. Et du coup, elle nous conduit finalement à cette confiance à laquelle Jésus lui-même invite ses disciples. Quand Jésus va leur dire « Ne vous inquiétez pas, voilà, vous vous préoccupez du lendemain, vous vous préoccupez de tas de choses, ne vous préoccupez pas, ne vous laissez pas complètement prendre par cette peur du lendemain, le Père sait ce dont vous avez besoin. » Voilà.
N'est-ce pas ce qui est le plus
Et
difficile?
Si Jésus invite ses disciples à la confiance, c'est parce que lui-même vit profondément cette confiance dans le Père, jusqu'au bout. Puisque dans Saint-Luc, sur la croix, j'allais dire, il meurt en disant, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est l'acte suprême de confiance. Voilà. Eh bien, je crois que Marie me paraît être, comme une mère, une grande et belle pédagogue de la confiance.
Mais c'est une pédagogie qui, pour notre époque, pour nous-mêmes, est toujours très difficile. Nous n'aimons pas lâcher prise et nous abandonner à quelqu'un d'autre.
Il y a un moment, je crois qu'il faut se lâcher. Hein. Et je crois que ce qui fait d'ailleurs la grandeur de Marie, hein, c'est qu'à un moment, qui dit confiance, dit que, vous savez, c'est un peu comme, j'allais dire, le trapéziste qui se lance dans le vide, faisant confiance aux mains de celui ou de celle qui vont le rattraper. Hein. Il y a toujours un moment où il y a un risque qui est pris. Je crois qu'il n'y a pas de confiance en risque. Et Marie, à la fois, nous appelle à affronter ce risque, et en même temps, elle est celle qui vient nous dire, mais n'aie pas peur. Hein. N'aie pas peur dans ce risque parce que Dieu est au rendez-vous. Voilà. Mais c'est un acte de foi aussi qu'il nous faut faire.
Monsieur le cardinal, vous êtes né à Marseille et donc sous la protection de Notre-Dame
oui.
de la Garde. Je pense qu'elle vous est chère. Pourriez-vous nous parler de la Bonne Mère?
Alors la Bonne Mère est chère au cœur des Marseillais. Hein. Moi-même, quand j'étais donc enfant, je montais à Notre-Dame de la Garde avec notre aumônier. Après notre communion solennelle, nous montions à Notre-Dame de la Garde. Voilà. Et puis j'ai vécu moi-même une petite maison dans l'archevêché de Marseille, vraiment au pied de Notre-Dame de la Garde. Quand je sortais de chez moi, tout de suite je voyais le sanctuaire avec la statue de Notre-Dame de la Garde. Voilà. C'est vrai que Notre-Dame de la Garde est un lieu d'abord emblématique de Marseille. C'est un lieu où on domine tout Marseille, il y a une très belle vue, et c'est un lieu qui regarde vers le large. Hein. En particulier, vous avez sur l'esplanade de Notre-Dame de la Garde, il y a une croix, et une croix qui fait référence à tous les missionnaires qui sont partis, s'embarquant de Marseille, et qui sont partis pour l'Afrique, pour l'Asie, et qui, avant de partir, venaient confier leur ministère à la Bonne Mère, voilà. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que cette statue qui est chère au cœur des Marseillais, j'allais dire de tous les Marseillais, parce que il y a les catholiques, bien sûr, qui montent, mais j'ai vu aussi pas mal de femmes algériennes qui viennent aussi prier ou mettre un cierge à Myriam, voilà, la mère de Jésus. Bien. Et donc, ce qui me frappe dans cette statue, c'est que la Vierge porte l'enfant. Et cet enfant se penche et il a les mains qui bénissent. Et donc, je trouvais que c'était très beau, si vous voulez, de pouvoir se confier à la protection de Marie, mais se mettre sous la bénédiction du Christ, sous la bénédiction de Dieu. Voilà. Et je crois qu'on est appelé, si vous voulez, à vivre notre vie sous la bénédiction du Seigneur. Et le Seigneur s'engage hein, à nous accompagner de sa bénédiction, si nous gardons la main que lui-même nous tend.
D'où l'importance de ces images de Notre-Dame au-dessus de nos grandes villes, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon, que ce soit...
Oui.
Monsieur le cardinal, à Bordeaux, enfin dans la région bordelaise plus exactement, vous possédez un grand sanctuaire marial, c'est Notre-Dame de Verdelet, qui peut-être est moins connue en dehors de la région et du sud-ouest. Pourriez-vous en parler à nos auditeurs?
Oui, on a dans le diocèse de Bordeaux plusieurs sanctuaires qui sont consacrés à Notre-Dame, en particulier à Arcachon, Notre-Dame des pêcheurs. Bon, mais là, à Verdelet, c'est un sanctuaire très ancien, puisque c'est un croisé, Géraud de Grave, qui, à la fin du XIe siècle, rentant de croisade, ramène une statue de bois. Donc, il fait construire une chapelle. Et il y a eu différents ordres, ordre de Grammont d'abord, les Célestins, et puis ensuite au XIXe siècle les Maristes. On a eu aussi les Passionnistes, les Marianistes qui sont venus tenir un sanctuaire. Cette statue, au moment de la guerre de Cent Ans d'ailleurs, a disparu, et puis on l'a retrouvée, on dit un peu miraculeusement, c'est Jeanne de Foix qui était... Donc de passage qui a vu sa mule tout d'un coup s'arrêter devant quelque chose et on a vu que c'était un morceau de statue qui était là. C'est pour ça qu'il y a à Verdelet un endroit qui s'appelle le pas de la mule. Voilà, c'était au moment où on a redécouvert cette statue qui avait été volée, cachée, l'église brûlée. Voilà. Cette Vierge qui est très très chère, je veux dire aux Girondins, est invoquée à Notre-Dame de Verdelet sous le vocable de la consolatrice des affligés. Et je trouve que c'est très actuel, si vous voulez, parce que je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, finalement, vivent des choses difficiles dans leur vie. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être sur le plan affectif, sur le plan relationnel, Des gens vivent des choses dures, y compris dans leur famille, et se dire qu'il y a là, finalement, la Vierge comme une mère qui les accueille, hein, et qui les invite à se tourner vers son fils, et donc aussi à entrer dans cette confiance. Et je crois que c'est un lieu de pacification intérieure. Donc il y a un accueil, il y a des messes, il y a des confessions, il y a eu, nous avons eu des temps forts diocésains, il y a un grand chemin de croix aussi, où on peut monter, on domine d'ailleurs la région. Voilà. Voilà un peu donc ce que représente pour nous Verdelet. C'était un sanctuaire avec une maison d'accueil que nous avons voulu renouveler complètement. C'est une belle hôtellerie aussi qui donc est accolée à la basilique, parce que nous avons pensé, si vous voulez, que, et c'est ma conviction, les sanctuaires de pèlerinage sont et seront certainement dans les années qui viennent aussi de grands lieux d'évangélisation. Voilà. Plus vous avez des gens qui ne savent plus très bien quel lien ils ont à l'Église, de quelle paroisse ils appartiennent, qui ont un peu lâché les amarres, plus on a besoin de ces lieux où des gens peuvent renouer contact. Et je crois que les sanctuaires, je le vois pour Lourdes, mais je vois aussi pour d'autres sanctuaires que j'ai connus, il y a Pontmain, mais aussi la Salette, par exemple, que j'ai connue quand j'étais évêque auxiliaire à Grenoble, je crois, sont des lieux véritablement à dimension missionnaire.
C'est la dimension mariale. Beaucoup de gens qui n'osent pas aller directement au fils passent par.
Que le Christ lui-même nous ait donné finalement sa mère. Hein. C'est la parole qui est dite donc dans Saint Jean par le Christ sur la croix quand il montre à Marie le disciple bien-aimé en disant voici ton fils et il dit au disciple voici ta mère. Et toute la tradition de l'Église a vu à travers le disciple bien-aimé eh bien chacun d'entre nous. C'est-à-dire, c'est à chacun d'entre nous que le Christ, finalement, donne sa mère, donne une mère pour nous. Et en même temps, c'est une mère qui ne centre pas toute l'attention sur elle-même, mais qui sans cesse renvoie à son fils. Écoutez-le. Hein? Ou bien, ce qu'elle dit aussi à Cana, au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Et de fait, je me rappelle cette jeune fille qui demandait le baptême. Et elle demandait le baptême, j'allais dire parce qu'elle avait été tout, elle n'osait pas s'approcher du Christ. Et c'est à Lourdes qu'elle a fait une conversion, elle a été touchée par la Vierge, et finalement c'est la Vierge qui l'a conduite à son fils. Et après, un peu comme si Jésus lui faisait peur, mais avec Marie, du coup, elle avait surmonté sa peur. Et elle s'était mise à l'écoute du Christ.
C'est l'enseignement de Sainte Marie Grignon-Montfort à Jésus par Marie.
Tout à fait, exactement.
Monsieur le cardinal, nous sommes cette année, nous célébrons cette année le centenaire des apparitions de Fatima. Quelle est à vos yeux, dans ce contexte, l'importance aujourd'hui de la dévotion mariale et qu'aimeriez-vous faire personnellement ou que faites-vous déjà afin de la répandre davantage?
Moi, ce qui me paraît, si vous voulez, donc, au cœur de la place de Marie dans notre vie chrétienne, fondamentalement, c'est une invitation à la confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est une invitation à nous mettre à l'écoute de la parole du Christ. Hein. Vous savez que dans l'Évangile, il y a cette scène un peu étonnante où on dit. Heureuse la femme qui t'a enfanté et les seins qui t'ont porté. Et Jésus de dire, mais heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Bon, ce qu'on pourrait prendre comme une espèce un peu de reproche par rapport à sa mère, en fait, je crois, est le plus beau compliment. Parce que Marie est celle qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Et elle nous invite, hein, à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et aussi à être témoin de cette parole. Hein. Dans notre synode à Bordeaux, que j'ai lancé, on a aussi proposé des visitations, c'est-à-dire d'aller se rencontrer. Et donc, je pensais à Marie qui ne garde pas pour elle-même, j'allais dire, la joie de l'annonce, mais va la partager avec sa cousine Élisabeth. Donc, on ne garde pas la foi pour soi tout seul, mais on la partage. Et je crois que Marie nous invite à ce partage, à cette annonce, à cette invitation, à cette évangélisation. Voilà. Donc, je pense que Marie a une place décisive, je veux dire, pour nous conduire à l'Évangile, à l'écoute du Christ et à l'annonce de cet Évangile. Voilà. Alors après, j'essaie de le faire moi-même, d'y aider par ma prédication, par les rencontres que je peux avoir, mais aussi par l'invitation à dire le chapelet. Pour moi, le chapelet, c'est quelque chose de très important où on se confie à Marie, où on peut, dans le chapelet, finalement porter, dans la communion des saints, toutes les intentions de prière que nous avons, qui nous sont confiées, ou aussi tout ce que nous voyons dans le monde. Et puis je souligne l'importance aussi des pèlerinages dans les lieux mariaux. Hein. Bien sûr, Lourdes, j'étais très heureux de vivre celui de Pontmain. Moi-même, quand j'étais scout, j'ai été très marqué par un pèlerinage à la Salette. Et donc, quand j'ai été nommé évêque auxiliaire à Grenoble, j'ai été accueilli à la Salette. Voilà, c'était un petit clin d'œil de Marie. Et puis, il va y avoir Fatima cette année, avec le centenaire, là. Je vois qu'il y a beaucoup de diocèses, beaucoup de paroisses aussi, qui organisent aussi un voyage à Fatima. Je pense que là aussi, il me semble que dans un contexte, qui est un contexte un peu d'inquiétude par rapport à l'avenir ou d'angoisse, qui marque notre monde, la Vierge nous invite à la confiance, mais en même temps en nous disant où il faut enraciner notre confiance, c'est-à-dire dans notre foi dans le Seigneur.
Merci, Monsieur le Cardinal. Je crois que vous avez admirablement résumé cette problématique de la dévotion mariale et des grandes ambitions qu'il faudrait pour notre pays et pour l'Église.
Oui.
Nous avons eu la chance et le plaisir d'accueillir Monseigneur Ricard, cardinal archevêque de Bordeaux. Merci infiniment, Monseigneur.
Merci. Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée, au revoir, Monseigneur.